La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à celles et ceux qui écoutent, je m'appelle Nicolas Mahalouf, je travaille à l'église baptiste Toulouse Métropole et c'est dans ce contexte que j'ai le privilège de voir le Seigneur œuvrer dans les cœurs pour attirer les âmes à lui. Aujourd'hui, nous allons voir comment replacer Dieu au centre de son adoration, comment lui rendre un culte agréable. Et j'aimerais commencer par cette anecdote. Quand j'étais étudiant, j'aimais le moment juste avant les soirées. Parce que j'avais plein d'espoir sur ce qui allait se passer, j'imaginais l'aventure, rencontrer des personnes différentes, parler de choses et d'autres, et surtout, passer un moment festif. Mais la réalité de la soirée était souvent très éloignée d'un simple moment festif comme je l'imaginais. C'était plus ou moins festif, mais je me posais surtout la question du sens. Quel était le sens de tout ça? Et qu'est-ce qu'on était en train de célébrer? Et souvent, le lendemain, mon cœur était troublé. Qu'avais-je fait? Et à quoi avais-je participé au fond? Ni mes amis ni moi ne savions dire ce qu'on célébrait. Parce que parallèlement, je cherchais à être heureux. Mais je ne connaissais pas celui qui pouvait me rendre heureux, à savoir Dieu. J'avais pourtant vu vivre des chrétiens et je les trouvais tellement heureux, mais il me fallait considérer l'évidence que c'était leur Dieu qui était le sujet de leur joie. Il me faut donc connaître leur Dieu, il me faut le découvrir ou le redécouvrir, puisque j'avais tellement entendu de choses au sujet de Dieu, je suis né dans une famille chrétienne, et je ne me tournais pas vers lui pour autant, je ne le priais pas, je ne lui demandais rien, je ne lisais pas ce qui était révélé dans la Bible, sa parole. Donc il n'était clairement pas le centre de mes préoccupations. Alors de plus en plus, mon cœur osait chuchoter timidement une prière vers lui. Comment te connaître personnellement? Comment vivre une vie qui a du sens? Comment être rempli de cette vraie joie que tu donnes et que j'ai vue sur le visage de tous ces chrétiens? Le texte que j'aimerais partager avec vous nous aide à répondre à ces questions puisqu'il nous présente un peuple qui offre à Dieu une adoration qui lui est agréable. Et Dieu donne sa faveur au peuple. Au fond, c'est ce que nous voulons vivre et c'est ce que je voulais vivre en tant que jeune étudiant. Savoir que je peux me réjouir de mon Dieu et être certain que je suis son sujet de joie à chaque instant, que j'ai sa faveur. Je vous fais donc la lecture du livre de Josué au chapitre 8 des versets 30 à 35. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute, sur lesquels on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là, une moitié du côté du mont Garizim, une moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Alors voici la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble. Comment être certain que Dieu reçoit notre adoration? Comment au fond lui rendre un culte qui lui est conforme? Et la notion de conformité est très importante. Vous utilisez probablement une voiture pour vous déplacer. Et pour qu'un véhicule soit commercialisé en Europe, il passe plusieurs dizaines de tests de conformité et plusieurs de ces tests servent exclusivement à garantir notre sécurité. Tout cela pour nous éviter un crash. Et bien pour éviter le crash dans notre vie chrétienne, nous souhaitons exposer notre vie tout entière au test de la conformité devant Dieu. Pour comprendre ce qu'est une adoration conforme à ses exigences et faire ainsi sa volonté. Et avant de parler d'adorer Dieu, il nous faut nous en approcher. Pour nous en approcher, considérons déjà ce que nous savons et avons reçu de lui jusqu'à présent. Savez-vous par exemple que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu n'importe comment? La Bible explique que Dieu a créé Adam et Ève, qu'ils se sont rebellés à son autorité, et que par cette rébellion, la mort est entrée dans le monde, et ainsi cette malédiction a contaminé l'humanité tout entière. Mais Dieu n'a eu de cesse de se manifester pour leur montrer qu'il avait pour projet de guérir l'humanité tout entière de cette malédiction, au travers d'un rédempteur, c'est-à-dire un libérateur. Il donnait plusieurs indices que c'est lui-même qui pourvoirait à ce libérateur. Car il faudrait que ce libérateur soit pur, c'est-à-dire sans péché, ce qui n'est pas le cas des êtres humains contaminés par cette malédiction, cette rébellion depuis Adam et Ève. Pour s'approcher de ce Dieu trois fois saint, ce n'est donc pas ma volonté ou mes émotions ou mes efforts qui vont définir la manière dont on s'approche de Dieu, mais Dieu lui-même va pourvoir à une solution pour rétablir cette relation brisée. Peut-être avez-vous déjà essayé de vous sauver vous-même d'une situation désespérée. Eh bien, si vous avez réussi, c'est que la situation n'était pas si désespérée au final. Car lorsqu'une situation est véritablement désespérée, alors il nous faut un secours qui nous vienne d'une puissance extérieure à la nôtre, d'une puissance supérieure. Le peuple de notre récit l'avait bien compris, puisqu'il faisait souvent face à ce genre de situation, où l'issue était plus qu'incertaine, où face à des ennemis qui étaient bien plus forts qu'eux, ils ne pouvaient plus prétendre seulement par leur force s'en délivrer. Et ce peuple agissait en se souvenant de comment Dieu avait agi par le passé, et qui il est. C'est ainsi qu'ils pouvaient savoir comment l'adorer et comment ils devaient agir aujourd'hui. Ils agissaient selon ce qu'ils savaient de Dieu, ce que Moïse leur avait transmis. En bref, ils avaient vu la puissance de leur Dieu à l'œuvre pour exercer ses jugements et les délivrer de leurs ennemis, et ils renouvelaient leur confiance en ce Dieu de délivrance en le célébrant. Alors pour nous aujourd'hui, qui n'avons pas pu voir tout ça, on pourrait penser que ce n'est franchement pas étonnant de voir le peuple d'Israël adorer son Dieu, un tel Dieu qui marche devant eux, avec cette capacité à délivrer, dans une perspective glorieuse, de les amener là où il avait prévu. J'ai envie de dire, on signe tout de suite à leur place. Et bien pourtant, lorsqu'on regarde leur histoire, elle n'a pas toujours été au beau fixe, loin de là. C'est un peuple qui n'a pas toujours obéi. L'épisode juste avant, au chapitre 7, nous le confirme, avec Achan qui n'avait pas respecté les prescriptions de l'Éternel en gardant en secret ce qui devait être détruit selon Dieu. Ce petit trafic fait en secret a mené tout le peuple à être sanctionné par Dieu immédiatement, pour ne l'avoir pas pris au sérieux. Mais bonne nouvelle, par la suite Josué est informé de ça, et il sait d'où vient le problème, la punition tombe certes, mais le peuple a une occasion de changer d'attitude, ce qu'il décide de faire, et cette fois-ci, en obéissant à Dieu, ils arrivent à une grande victoire, tout le peuple est vainqueur. Ce genre de récit présent dans l'Ancien Testament nous montre aussi comment notre propre cœur a tendance à fonctionner. C'est-à-dire que nous connaissons certaines choses au sujet de Dieu, mais nous choisissons de ne pas les prendre au sérieux. Ensuite, Dieu nous montre que ne pas lui obéir est coûteux et peut être très dangereux. Puis nous reconnaissons notre misère spirituelle, nous nous repentons. Et ensuite, Dieu nous accorde une délivrance. Et il nous rétablit par le pardon de nos péchés. Et c'est un cycle récurrent dans le peuple, mais aussi dans nos propres cœurs. Et peut-être, comme le peuple de notre récit, nous aimerions nous réjouir et louer Dieu de ce que nous avons connu récemment, une délivrance dans notre vie, peut-être une réponse à une prière. Mais qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu, ce Dieu qui a tout? Qu'est-ce que nous pourrions lui offrir qui lui soit agréable? C'est un peu la question à laquelle nous essayons de répondre. Eh bien, plusieurs siècles plus tard, l'apôtre Paul répond. En Romains chapitre 12, versets 1 et 2, je vous lis. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Par conséquent, il nous faut être transformés par le renouvellement de l'intelligence, ce qui signifie de ne pas se conformer à la pensée de ce siècle qui rejette Dieu, mais d'apprendre à le considérer tel qu'il est, apprendre à connaître celui qui nous a délivrés et qui est capable de le faire encore. Et si nous souhaitons approfondir notre relation avec Dieu, un moyen efficace, mais qui ne nous est pas toujours naturel, est de côtoyer d'autres personnes qui ont fait cette même expérience relationnelle avec Dieu. Et c'est ce qui se passe dans l'Église, quand les croyants se rassemblent pour louer Dieu. Et c'est aussi ce qui se passe dans notre récit, où on peut constater que le peuple est porté par le souvenir de ce que Dieu a fait au travers de Moïse, tous ensemble et dans l'unité, ils se réunissaient et prenaient Dieu et toutes ses prescriptions au sérieux. C'est tout l'inverse d'une attitude désobéissante ici. La désobéissance produit un mépris quant aux promesses de Dieu, où chacun suit sa propre voie, ses propres désirs, ses projets égocentriques et individualistes. Mais ici, c'est tout l'inverse. Le peuple est en attente de la bénédiction de l'Éternel, se rappelant ses délivrances passées, prenant au sérieux sa loi, transmise par l'intermédiaire de Moïse, et tout ceci dans un contexte communautaire. Ils vivaient la chose ensemble. Mais avant de continuer, je voudrais évoquer un point qui n'est pas explicite dans notre texte, mais c'est une vérité à laquelle le peuple croyait et qui est très importante au sujet de Dieu. Dieu est bon. Il faut considérer que Dieu est bon pour s'attendre à ses bénédictions. Pourquoi c'est si important de se rappeler qu'il est bon ? Mais un mauvais postulat sur le caractère de Dieu nous fait passer à côté d'un quelconque cheminement vers Dieu. Et c'est inévitable. Si vous pensez que Dieu est mauvais, vous n'allez pas réfléchir à vous approcher de lui. Par exemple, qui d'entre nous planifie de se faire un restaurant pour choisir de manger le plat qu'il n'aime pas manger, dans la pièce la moins adaptée du restaurant, par exemple les toilettes ? Qui est capable de planifier ça et qui va payer pour ça ? En effet, si nous allons au restaurant, c'est partant du principe que nous allons y manger bien, dans une bonne ambiance. Et c'est bien la même dynamique qui devrait nous animer lorsque nous cheminons vers Dieu. Il nous faut nous approcher de Dieu avec foi en sa bonté, dans l'espoir de recevoir de lui de bonnes choses. Et bonne nouvelle, le Père Céleste, le Dieu de la Bible, il possède ce caractère, il est bon. Ce n'est pas par plaisir qu'il se met en colère lorsqu'il s'y met, c'est pour nous corriger dans le sens de sa bonté. Ce n'est pas par plaisir qu'il inflige la correction. Et inversement, il est riche en bonté, sa parole nous le dit, les récits nous le témoignent. Oui, l'Éternel prend plaisir à faire grâce, et il prend plaisir à nous faire grâce encore à nous aujourd'hui. Alors, fort de cette vérité que Dieu est bon et qu'il a œuvré pour se faire connaître à son peuple par le passé, nous pouvons maintenant nous concentrer sur les derniers versets de notre récit, à partir du verset 34, je vous lis. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants, et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Ici, c'est toute la loi de Dieu dans son entièreté qui est considérée. Toutes ses prescriptions sont prises au sérieux et aucune ne manque. Et l'inverse pourrait être dramatique. J'aimerais vous l'illustrer. Par exemple, c'est facile d'aimer quelqu'un partiellement. Je veux dire par là, c'est facile pour mon voisin de m'aimer parce que je l'ai félicité de la naissance de sa dernière fille et nous lui avons offert un cadeau avec ma femme. Mais est-ce qu'il m'aime vraiment ? Il peut m'aimer pour le cadeau que je lui ai fait, cette attention, mais m'aime-t-il vraiment dans mon entièreté ? S'il connaissait toutes les facettes de mon caractère, m'aimerait-il encore ? Est-ce vraiment de cet amour que Dieu nous aime ? Un amour sélectif ? Conditionnel ? En tout cas, j'ai personnellement tendance à aimer Dieu de cette manière. Si je vois qu'il répond à mes prières, je l'aime beaucoup. Si je lis dans la Bible des choses qui vont dans mon sens, là encore, je l'aime beaucoup. Mais est-ce là un amour désintéressé ? Est-ce là véritablement l'amour inconditionnel dont lui m'a aimé ? Et est-ce que ça, c'est aimer Dieu dans toute son entièreté ? Ne devrions-nous pas plutôt considérer l'entièreté de ce qu'il est et de ce qu'il veut nous communiquer par sa parole ? C'est assez facile pour moi de respecter le commandement « tu ne tueras point ». Jusqu'ici, pas de problème pour moi. Mais c'est moins facile de respecter le troisième commandement « tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Oh, combien j'ai failli à obéir à ce commandement. Mais très religieusement, nous avons une tendance en tant qu'humains à isoler ce qui nous est le plus facile à appliquer dans la vie pour en produire tout un système de valeurs morales, tout un système de pensée qui sera non pas la pensée de Dieu, mais notre système de pensée à nous. Finalement, c'est une doctrine qui n'est pas fondée sur toute la pensée de Dieu, mais sur ma pensée, mes facilités. Excluant ainsi ce qui ne me plaît pas, ou ce qui m'irrite, ou ce sur quoi je bute. Je suis très honnête avec vous, je pratique cette manière de penser, et en ça j'échoue donc dès le premier commandement de la loi mosaïque, car en faisant cela, j'ai un autre Dieu que l'Éternel. cet autre Dieu, c'est moi. J'ai une tendance quotidienne à me rebeller à l'autorité divine pour me mettre au-dessus de cette autorité, pour me mettre sous l'autorité de ma propre doctrine falsifiée, de ma propre personne au fond. Bonne nouvelle pour nous tous. L'amour de Dieu surpasse le nôtre. Heureusement que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, mais selon sa grande miséricorde. D'un côté, il y a nous. Nous prenons au sérieux seulement certaines portions de Dieu, selon nos désirs changeants. Et de l'autre, Dieu qui nous a aimés, nous, entièrement. Alors que plusieurs de nos facettes n'étaient franchement pas aimables. Certaines même, soyons honnêtes, plus ténébreuses, étaient dégoûtantes, et pourtant c'est entièrement qu'il nous a aimés et qu'il nous aime encore, par Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ que nous pouvons être certains que nous avons reçu une telle faveur de la part de Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons être certains d'être favorables aux yeux du Père Céleste. Parce que le culte agréable et digne de louange par excellence, ce n'est pas un sacrifice de ma part. C'est que je reconnais que le sacrifice qui me rend agréable a été fait par lui, par le don de son Fils Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Autrement dit, mon adoration peut être recevable et agréable seulement parce que je la lui offre sur la base de la sienne, de sa vie parfaite, de son adoration parfaite, celle de Jésus qui s'est donné entièrement pour nous pécheurs. C'est par le nom de Jésus-Christ, par l'œuvre de sa croix, que je peux me tenir debout devant le Dieu trois fois saint. C'est par sa victoire à la croix. C'est par lui encore que je peux le louer aujourd'hui d'un cœur reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. C'est Jésus qui m'a purifié, justifié et rendu acceptable auprès du Père Céleste. Par lui, je suis pardonné de mes iniquités. Il m'a réconcilié avec mon Père Céleste. L'Éternel, notre Dieu, est favorable par Jésus-Christ. Et je sais maintenant qu'il ne m'abandonnera jamais, car lorsque j'étais son ennemi, il est mort pour moi. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, ne veut-il pas nous sauver avec lui? Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait. Et c'est exactement la base de tout culte agréable à Dieu, tout culte chrétien, c'est Jésus-Christ comme fondement. Je prie que ce rappel, qui est le cœur de l'évangile, qui est le cœur de la foi chrétienne, ne soit jamais éloigné de notre cœur, dans notre adoration, dans notre vie de culte, dans notre vie d'église, dans nos prières les plus intimes, les plus cachées, les plus retranchées, que ce soit sur ce fondement que nous prions notre Père Céleste, parce qu'il n'y a que sur ce fondement que nous puissions avoir la faveur de notre Dieu l'Éternel. Amen.
glorifié par son Père.